L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Transistor, c'est le nouveau nom de Radio Évasion. Mais LEM, c'est toujours en direct à midi, en rediffusion à 18h et c'est toujours avec des partenaires fidèles comme l'association Bretagne Vivante. Comme toutes les associations, même si elles comptent beaucoup de salariés, Bretagne Vivante a besoin de ses bénévoles. Notamment parce que l'association s'est vue confier la gestion de quelques réserves naturelles, beaucoup de réserves naturelles. Ce sont elles qui concernent les bénévoles essentiellement. Avec nous pour en parler aujourd'hui, un bénévole de Bretagne Vivante, justement, Yvon Créau, qui est conservateur de la réserve de la baie de Morlaix, et Quentin Rochas, qui est salarié de Bretagne Vivante à Morlaix. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Rappelez-nous quel a été le rôle historique des bénévoles de Bretagne Vivante, qui est une très vieille association, très vénérable.
Alors, c'est d'abord et avant tout une association de bénévoles. Hein. Le Bretagne Vivante a démarré avec des bénévoles et à une époque où le salariat n'était pas l'élément essentiel et moteur d'association. Alors, le monde associatif a beaucoup changé depuis ses débuts héroïques, comme vous le disiez.
Et vous, c'était il y a plus de 70 ans, hein,
Bretagne Vivante. Plus de 70 ans, voilà. C'est ça. Et donc, les précurseurs de l'association avaient pour idée à l'époque de protéger la nature qui était déjà menacée, et d'où leur volonté de, au-delà de faire de l'étude, au-delà de d'être des naturalistes de terrain qu'ils étaient au début.
Quand même, oui, ils étaient quand même déjà naturalistes.
Ah, tout à fait. C'est même de là que c'est même le terreau fondamental, je dirais, de l'association. Et rapidement s'est fait jour l'idée que des milieux étaient menacés. Et c'est la raison pour laquelle il fallait des réserves. Parce que si la nature était protégée partout, il n'y aurait pas besoin de réserves.
Mais non. Ce serait formidable.
Et donc, du coup, les personnes qui étaient à l'association à l'époque, dont certaines sont encore bien actives, se sont dit, créons des réserves.
C'est Bretagne Vivante qui a inventé la notion de réserve, on pourrait dire ça.
C'est sans doute pas, parce qu'il y a eu des réserves bien avant. Hein, c'est pas une idée si ancienne que ça. Hein. Et dans les années 50-60, 2900, il y a eu beaucoup d'initiatives, et la Bretagne a été très très précurseur à cette époque-là.
Oui, parce que est-ce qu'il y avait des équivalents de Bretagne Vivante il y a 70 ans? Enfin, peut-être pas aussi dans toutes les régions. C'est ça
non,
aussi.
Non, et j'en veux pour preuve que qu'un certain nombre de réserves normandes à l'époque étaient des réserves de la SEPNB, hein, puisque Bretagne Vivante, c'est toujours le nom d'ailleurs, hein,
oui,
c'est Bretagne Vivante, SEPNB, géraient des réserves en Normandie. Alors après, les Normands ont pris leur indépendance. le réseau des réserves a commencé comme ça. Hein, donc avec...
uniquement des bénévoles.
Avec, au départ, uniquement des bénévoles. Et l'association s'est professionnalisée, et c'est ensuite que les salariés sont arrivés. Et donc, ce mariage salarié-bénévole, il s'est passé, je dirais, de manière relativement tranquille, parce que il y avait tout à coup des gens qui avaient et le temps et la capacité professionnelle, parce que qui dit bénévole, amateur, est toujours... une petite suspicion de pas être très très sérieux. Et ce qu'a apporté qu'ont apporté les professionnels, c'est d'apporter un crédit scientifique plus fort, encore que les bénévoles initiaux étaient pour beaucoup issus du monde universitaire.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc du coup étaient aussi des gens fort compétents. Mais le fait d'avoir du temps pour les salariés à libérer aussi aussi un petit peu les bénévoles. Et puis, aujourd'hui, on se trouve avec une difficulté, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, où le bénévolat n'est plus ce qu'il était. Et donc voilà, et voilà un petit peu pour poser un peu le cadre du démarrage de ces réserves. Quoi.
Quentin Rochas, les bénévoles et les salariés, enfin, combien de bénévoles et salariés à Bretagne Vivante? Vous pouvez me dire quelques chiffres éventuellement? Où ils vont concrètement?
Oui, alors il y a 4400 adhérents à Bretagne Vivante. On peut dire que parmi ces adhérents, il y a un gros 10% de bénévoles actifs et 73 salariés. Voilà, ce qui est déjà une grosse machine, hein, voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'un ne pourrait pas être sans l'autre. Hein, c'est une chose qui marche sur ses deux jambes, quoi. Hein, c'est parce que les salariés ont la parole d'autant plus facile qu'ils peuvent se reposer sur le socle, la structure d'une association avec beaucoup de membres, quoi. Et même si on n'est pas membre très actif, rien que le fait d'envoyer sa cotisation tous les ans, bah, c'est déjà beaucoup.
Quentin Rochas, quel est le profil des salariés comme vous? Vous avez fait quoi en général comme études?
Oui, alors le profil des salariés majoritairement sont issus aussi du cursus universitaire. À Bretagne Vivante, on est organisé en deux pôles, un pôle animation qui va viser à plutôt sensibiliser, éduquer à l'environnement et qui va s'adresser au premier cycle, deuxième cycle chez les scolaires, donc issus d'un diplôme d'État ou d'un BTS gestion protection de la nature, donc Bac plus 2. Et l'autre partie, plutôt le pôle scientifique, va être issu d'un cursus LMD, licence master ou doctorat, donc un bac plus 5, et certains salariés sont même titulaires d'un doctorat.
Plutôt en biologie en général alors,
En biologie principalement, donc biologie des écosystèmes, biologie des organismes ou d'autres spécialités.
Donc le profil en fait, on va dire socioculturel entre bénévoles et salariés n'est pas si différent que ça en fait. Enfin, vous disiez Yvon Créau que c'était des universitaires, beaucoup les bénévoles, donc finalement il n'y a pas tellement d'écart.
Ça l'était, je crois que le profil des bénévoles s'est beaucoup beaucoup diversifié aujourd'hui, et vous pouvez avoir des gens issus de tout milieu, mais qui au fur et à mesure de leur vie militante ou de leur vie de naturaliste, ont développé des compétences particulières sans pour cela forcément avoir des compétences des diplômes, voilà. On pourrait en prendre pour exemple quelqu'un qui nous est très cher, qui est disparu depuis peu de temps, qui s'appelait Ewen de Kergariou, qui a été très longtemps le conservateur de la réserve de la baie de Morlaix, et dont le métier était voilier, de fabriquer des voiles. Donc, et pour autant, il avait acquis une compétence à la fois en termes de connaissances naturalistes et de capacité de mener des programmes de gestion qui était à la hauteur de ce que ferait un professionnel.
Ouais, c'est ça, on apprend non seulement sur les espèces animales, mais en plus la gestion de projet. Bon, ça c'est la vie des associations. Combien de réserves naturelles sont confiées à Bretagne Vivante?
Aujourd'hui, on est à 140 réserves, hein, voilà. Alors, qui ont des profils différents. Hein. Ça peut aller de toutes petites choses à des choses plus importantes. Quelquefois, c'est juste une prairie ou un secteur ou une plante particulière à trouver son milieu favorable, comme des réserves beaucoup plus importantes de plusieurs centaines d'hectares. Quoi.
Oui, les plus grosses, c'est quoi? C'est dans le centre Bretagne, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et là, quand il y a une réserve, importante, il y a forcément des salariés dessus, enfin, même dédiés à cette réserve, non? Comment ça se passe Quentin Rochas?
Oui, alors comme le disait Yvon, les réserves à Bretagne Vivante s'organisent en trois pôles. Il y a certaines qui se suffisent à elles-mêmes, qui sont juste un espace très local. Et puis il y a des réserves qui sont classées, donc soit à un niveau régional, donc les réserves naturelles régionales, ou des réserves qui sont classées au niveau national, donc réserves naturelles nationales. Celle qui est la plus proche, c'est celle des Monts d'Arrée, hein, du Cragou et du Vergame, qui est une réserve classé, dont le conservateur Emmanuel Holder est salarié.
C'est ça.
Oui. Est salarié et rattaché à l'association qui est gestionnaire de cette réserve. Les financements alloués à cette réserve proviennent de la région, mais aussi de l'État.
Et il a quand même des bénévoles qui l'aident. Enfin, il y a même d'autres salariés, je crois, qui travaillent
avec
lui.
Oui, tout à fait. Oui. Autour de ce conservateur-là, il y a des bénévoles qui animent finalement la présence sur le territoire, l'ancrage aussi de cette réserve, mais aussi des techniciens qui sont là pour appuyer, notamment gérer les cheptels, typiquement.
Oui, parce qu'il y a des vaches qui boutent, c'est ça.
Voilà, enfin, tout à fait.
C'est, ouais. Alors, puisque vous venez de la baie de Morlaix, de la réserve de la baie de Morlaix, bah, présentez-nous votre réserve. Alors, je ne sais pas, Yvon Créault, allez-y.
Bah, écoutez, cette réserve, elle est nichée finalement au sein d'un milieu naturel plus large. La réserve proprement dite, c'est sept îlots en fait, qui émaillent le grand plan d'eau de la baie de Morlaix. La baie de Morlaix est aussi un espace remarqué et remarquable puisqu'il est sous le... il recouvre une zone qu'on appelle Natura 2000. Donc voilà. Alors la réserve proprement dite, c'est avant tout une réserve qui a été faite pour la nidification des oiseaux marins.
Donc la partie qui concerne Bretagne vivante, c'est la partie terrienne. Vous ne regardez pas ce qu'il y a sous l'eau.
Exactement.
En fait.
Alors on ne regarde pas ce qu'il y a sous l'eau, mais on s'y intéresse de plus en plus. Et Quentin se présentait tout à l'heure et présentait les salariés. Lui, il est océanographe. Et c'est peut-être pas un hasard.
En effet.
Et donc du coup, on se trouve avec une réserve. Si les oiseaux marins nicheurs sont là, il leur faut plusieurs choses. Il leur faut, un, la tranquillité pour ne pas être dérangés. Et ça, c'était le but initial de la réserve, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des débarquements intempestifs, des choses de ce type-là, mais aussi parce qu'il y a de la nourriture autour. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus, de situer cette réserve. C'est juste quelques confettis au sein de la baie de Morlaix, dans le cadre plus large d'un milieu écologique de la baie de Morlaix. Et c'est aujourd'hui les orientations en fait, qu'on souhaite donner à cette réserve, parce que ne parler uniquement que de la tranquillité des oiseaux ne suffit pas. Hein, et il faut en prendre en compte l'ensemble de leurs exigences écologiques et notamment celles des apports dont ils ont besoin en nourriture et pas seulement de la question du dérangement.
Mmh. Et les oiseaux, qu'est-ce qu'il y a comme espèces emblématiques dans cette réserve-là ?
Alors, les espèces emblématiques, aujourd'hui, c'est essentiellement le grand cormoran et les grettes garzettes, qui sont deux espèces qui, aujourd'hui, sont les espèces les plus phares, je dirais, de la réserve.
Ah, c'est étonnant, parce que les grettes garzettes, on perçoit plutôt un estuaire, or...
Oui, mais curieusement, en baie de Morlaix, les grettes garzettes ont trouvé un milieu inhabituel hein, pour elles.
Ah, oui, c'est ça.
Elles nichent sur des îles, quasiment à terre, voilà. Essentiellement sur les lavatères arborescentes, là, qui est une grande plante qui pousse sur le littoral. Alors, il faut savoir que la réserve de la baie de Morlaix, ça a été autre chose. Ça a été un des derniers lieux du Macaré-Moine dans le Nord Finistère, en dehors des sept îles. Ça a été une très grosse colonie de sternes Kojek et de sternes de Dougal, très rare sternes de Dougal, qui aujourd'hui ne niche plus que dans deux endroits en Bretagne.
Ouais, vous et parlez donc, au passé, ça veut dire que tout ça, Macaré-Moine, c'est pareil, il n'y en a plus.
Tout ça, il n'y en a plus.
Ah ouais.
Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire, ah, bah oui, mais cette réserve a-t-elle encore du sens avec des espèces emblématiques hein, qui ne sont plus là. Certes, mais ces espèces, n'ont pas toujours été là non plus. Certaines ne sont arrivées, par exemple, pour... elles sont sur mon nez.
Vos lunettes sont là.
par exemple, la sterne de Kojek et les sternes de Dougal sont arrivées dans la baie en 1983. Elles ont disparu en 2011. Donc, il y a des cycles dans la nature.
Oui, elles pourraient revenir, en fait, c'est ça que vous voulez dire, quoi.
Et c'est, elles pourraient revenir. Est-ce que les conditions seront encore là pour qu'elles reviennent ? On n'en est pas sûr. Mais d'autres espèces sont apparues depuis dans le cadre de la baie de Morlaix. Typiquement, pour les grettes, les grettes garzettes, son arrivée dans la baie, c'est 1992.
Oui, et elle est toujours là.
Et elle est toujours là, voilà.
Alors, Quentin Rochas, vous êtes donc salarié de cette réserve, quasiment, c'est ça ? Vous êtes uniquement attaché à la réserve. Qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre rôle à vous ?
Alors, oui, moi, je suis salarié chargé de mission biodiversité à l'échelle du pays de Morlaix en Finistère. Donc, mon rayon d'action est plus large. Donc, s'occupe très bien de la partie littorale marine que concerne la baie de Morlaix réserve, mais aussi la partie terrestre, dont l'accompagnement des collectivités territoriales, du partenariat sur des projets en lien avec la nature et la biodiversité. Mon rôle sur la réserve, c'est, si je peux statuer, en fait, ça va être le technicien, finalement, de cette réserve-là. Mon rôle, ça va être la mise en place, le déploiement, la coordination de l'équipe bénévole qui m'entoure au quotidien sur la réalisation des suivis, notamment les suivis de production de ces oiseaux marins-là qui sont intégrés finalement
donc
dans des réseaux plus larges.
On compte les œufs, on compte les naissances.
Oui, c'est un peu ça. Donc, ouais. C'est du travail qui s'étale tout le long de la période de reproduction. Donc, les premiers oiseaux arrivant sur la réserve, c'est les grands cormorants donc, qui vont venir prospecter à partir de la mi-janvier. Et les premiers pondeurs, couveurs vont pondre leurs premiers œufs en début février. Et puis, il y aura une succession finalement. Les goélands vont arriver un peu plus tard. Le pic de période de reproduction, ça va être aux alentours du mois de mai, de la mi-mai. Et là, du coup, on va se déplacer par nos moyens nautiques à disposition de l'association.
Donc, c'est vous qui conduisez le bateau, qui pilotez le bateau?
Oui, tout à fait. Oui. Alors moi, j'ai le permis bateau.
Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire que voilà, un salarié, c'est ça aussi.
C'est aussi ça. Alors, parmi les bénévoles, il y a aussi des bénévoles qui ont le permis bateau. Et donc ça, c'est aussi,
ça, c'est bien.
C'est aussi un confort si on doit être absent pour une raison ou une autre, bah, des bénévoles peuvent prendre la main là-dessus, même si en tant que salarié, on se doit de chapeauter les suivis scientifiques. Voilà.
Vous avez la vision globale, en fait, c'est
on,
ça.
On a la vision globale aussi, oui.
Que le conservateur a sans doute aussi, ils vont créer au vous.
Oui, alors le conservateur l'a aussi. Hein. Moi, mon domaine de compétence, c'est quand même l'ornithologie au départ. Hein. Et donc, à partir de ça, effectivement, le conservateur, il est... je dirais qu'il travaille complètement main dans la main avec le salarié. Le conservateur, c'est aussi un animateur d'équipe. Parce que, Quentin disait, il y a d'autres personnes dans l'équipe. Et le conservateur, moi, ce que je fais n'existerait pas si on n'était pas une équipe d'une dizaine de personnes.
Équipe bénévole, là, pour le coup?
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Et donc, cette équipe-là, elle est mobilisable, elle est mobilisée sur la réserve, ce qui permet un certain confort, en fait, et de se dire, bon, bah, s'il y a quelqu'un qui peut pas ce jour-là parce que voilà, il est malade, parce que ça va pas, il y a toujours quelqu'un qui est là pour
parce
pour
qu'il faut prendre que le tous les jours il y ait quelqu'un, c'est ça en gros l'exigence?
Non, on a une première exigence qui est l'exigence de faire le comptage. Et vous disiez, on compte les œufs, on compte les nids, bah oui, c'est ça qu'on fait. Hein.
Bah, ça prend du temps, j'imagine. Ouais, quoi. Ouais.
Ça prend du temps, et puis il y a aussi une autre fonction qui est de marquer notre présence sur l'eau, d'être là, nous, en tant qu'association. On a un bateau qui est bien estampillé réserve ornithologique. Les usagers de la baie, que ce soit les plaisanciers, les clubs de voile, les pêcheurs plaisanciers, nous connaissent. Et
vous gardez les îles, en fait. Enfin, c'est ça.
C'est ça. On a un peu cette fonction de gardiennage, alors qui a été par le passé beaucoup plus avec beaucoup plus de friction qu'aujourd'hui, hein, parce que les choses n'ont pas toujours été très très simples. Hein. Et notamment, il a fallu à certains moments batailler ferme pour que les dates pendant lesquelles l'interdiction est effective soient respectées.
Ah oui, parce que c'est pas toute l'année.
C'est pas toute l'année.
D'accord.
Hein,
okay.
Donc c'est du 1er mars au 31
et
août.
Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assermenté dans votre... Parce que c'est ça,
non.
En fait.
Non,
d'accord.
Non. Ouais. Donc c'est le dialogue, c'est voilà. C'est,
ouais. Parce qu'il y a des réserves, il y a quelqu'un qui est assez remonté, qui interdit, qui est en mesure d'interdire totalement Et donc ces bénévoles, vous disiez, Yvon Créau, ils se font rares, enfin ils vieillissent, enfin c'est quel est le problème avec les bénévoles?
Aujourd'hui le bénévolat, moi j'ai coutume de dire quand j'ai commencé l'ornithologie, on avait tous à peu près le même âge, et maintenant que j'ai vieilli, on a tous encore à peu près le même âge.
Pourquoi, à votre avis, c'est difficile de recruter?
Parce que je crois que les temps changent, je crois notamment parmi nos plus jeunes collègues, mais les choses sont cycliques. Moi, je ne suis pas très, très inquiet là-dessus. Hein. Je pense que les bénévoles nouveaux trouveront d'autres manières de faire, d'autres... Voilà. Peut-être sur des projets plus ponctuels, liés à quelque chose de précis à un moment donné, plutôt que des choses un peu au long cours, qui peuvent aujourd'hui, dans un monde où on zappe beaucoup, paraître un peu rébarbatives, quoi. Et donc,
pourtant, ça paraît sympa, l'idée d'aller dans les îles, comme ça, compter les oiseaux.
Oui, mais il faut aussi avoir le temps. Hein,
voilà. Ça dure combien de temps, un comptage sur le terrain? Un comptage type, c'est une journée?
Le gros comptage qu'on fait en mai, il dure sur une journée.
Hein, voilà. Oui, mais enfin, bon, c'est une bonne journée. Vous n'y allez pas s'il pleut, peut-être. Vous n'y allez que quand il fait beau.
Ah ben, on essaye d'adapter nos conditions de comptage au confort des oiseaux. Donc, on va éviter quand il pleut.
Ouais. Et Quentin Rochas, puisque vous êtes jeune, visiblement, qu'est-ce que vous en pensez sur ces nouvelles générations? Qu'est-ce qu'il faudrait leur proposer pour qu'ils deviennent bénévoles? Alors, à Bretagne Vivante, en tout cas.
Oui. Alors, pour faire le lien avec Yvon, effectivement, on se fait pas de soucis sur le fait qu'il y aura des bénévoles et qu'il y en aura toujours, finalement. Mais je pense qu'il faudrait recontextualiser la chose en disant que les nouvelles générations sont très actives, les études sont de plus en plus longues, il y a une forte mobilité à l'échelle des territoires et même aux échelles locales. Sur la baie de Morlaix, typiquement, et à Morlaix même, il y a un lycée qui s'appelle le lycée Sucigno, qui est un lycée de formation des BTS en gestion de protection de la nature. Ces lycéens, finalement, passent 2 ans sur l'espace, sur le territoire, mais du fait que la difficulté de trouver un emploi oblige ces jeunes étudiants à poursuivre leurs études, à partir en licence professionnelle, à faire des masters, et donc...
Ailleurs.
Ah. Et donc... Effectivement, il y a parmi des bénévoles ponctuels ou même réguliers, il y a des BTS, gestion protection de la nature, des étudiants qui viennent participer régulièrement à nos suivis. On fait aussi des suivis phoques en baie de Morlaix. Mais une fois qu'ils partent, on retrouve ce manque-là. Après, considérant la tranche d'âge supérieure, 30, 40 ans, 5 ans, voilà, ils sont très actifs, il y a des contraintes familiales aussi, des horaires de travail qui sont contraignants. Et donc, du coup, trouver le temps de s'impliquer, c'est un peu plus compliqué.
Ouais, donc vous organisez autrement peut-être aussi le travail des bénévoles, c'est ça? Vous leur proposez des missions plus ponctuelles peut-être?
Alors, les bénévoles sur l'antenne de Morlaix, ils sont autonomes sur certaines parties, donc sur tout ce qui est l'ancrage territorial, l'animation, la proposition de sorties, grand public, ils participent aussi à des commissions, à des instances
Lien
avec les partenaires,
Morlaix
communauté.
C'est pas toujours le plus sexy, les réunions.
Voilà. Et puis, il y a des projets de commun. La réserve est le bon exemple, hein, puisque la réserve, c'est une équipe de gestion de réserve composée de 5 bénévoles, dont Yvon en fait partie, en tant que conservateur. Et puis, autour de ces réserves, il y a les suivis aussi qui sont réalisés à plus large échelle, donc à l'échelle du Natura 2000, que Yvon évoquait, où il y a des suivis phoques. Donc, il y a des bénévoles qui sont un peu plus compétents sur de la prise de photos avec le téléobjectif, donc de l'analyse photo-identification.
Peut-être des nouvelles compétences. Enfin, comme ça, et ça me vient à l'esprit, grâce au drone, on peut peut-être faire des comptages différents, non? Enfin,
oui,
je sais pas si
oui, tout à fait. La technique du drone a pas mal révolutionné tout ce qui est suivi de colonies pour limiter le dérangement. Hein. Y a un bénévole aussi, Benoît Degonne, qui est professionnel, mais qui nous prête main forte sur qui est télépilote de drone. Et on fait des survols autour de la mi-mai, notamment de l'île aux Dames, qui est un des 7 îlots, puisque la réserve, c'est 8 hectares répartis en îlots insulaires, donc en cailloux. Et donc, il réalise un passage, puis il assemble ces photos-là, et ça nous permet de ne pas déranger en débarquant sur les îlots, de ne pas faire envoler les oiseaux et de compter le nombre d'adultes en position couveur au nid, finalement, et d'avoir un comptage le plus exhaustif et le plus précis possible que si on devait regarder aux jumelles à partir du bateau et donc sur l'eau.
Donc plein de compétences possibles quand on veut être bénévole pour Bretagne Vivante. Et,
voilà.
Et donc, à vous écouter, je me dis, il y a quand même toujours autant de gens qui s'intéressent à la nature. C'est pas un problème de rapport à la nature, parce qu'on dit les humains et leur rapport à la nature se dégradent. C'est pas ça le problème, d'après vous, quoi.
Je pense bien au contraire, parce que dans les animations que l'on fait, on voit, et moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant aujourd'hui, c'est l'émerveillement qu'on a face à la nature. Moi je pense qu'il faut pas bouder ses émotions par rapport à ça, et le caractère esthétique, quand vous êtes autour d'une colonie d'oiseaux en pleine activité, j'ose le dire, c'est émouvant. et là, quand on fait les animations, les gens sont intéressés, et y compris les générations avec des jeunes enfants, par exemple, où ils sont soucieux de pouvoir montrer à leurs enfants que ça ne disparaisse pas une nature qui est encore source de beauté et d'émerveillement. Et je pense que ça, c'est un ressort puissant et profond de la protection, au bout du compte.
Et du bénévolat peut-être à terme. Quoi.
Et du bénévolat peut-être à terme. Au-delà de ce qu'on peut voir à la télé, parce que là, en vraie grandeur, c'est quand même autre chose. Quoi.
Bon, on va s'arrêter là, mais on va vous remercier tous les deux d'être venus, et puis on pourra réécouter cette émission sur le site de la radio et toutes les autres réalisées avec Bretagne Vivante. Merci beaucoup.
Merci.